Ça manque pas d'air.
Marie-Claire Thomas.
Janvier 2019, nous en sommes à notre 15e émission et ça me donne l'occasion de vous souhaiter une belle année, belle et heureuse année. Nous nous retrouvons pour un numéro de Ça manque pas d'air, l'émission de radio entièrement dédiée à la recherche en éducation. Il faut bien travailler à l'école. Tout le monde a déjà entendu cette phrase par ses parents, ses professeurs ou dans les médias. Derrière cette injonction, un objectif avant tout, pouvoir exercer le métier de ses rêves plus tard. Mais aussi un présupposé, l'orientation ne dépend que de l'investissement personnel et scolaire de l'élève dans un système dit libre et égalitaire. C'est un bel idéal. Sauf que la réalité ne semble pas à la mesure des ambitions portées par le système éducatif français, au vu de l'ampleur des discussions et des manifestations qui animent l'espace public. Mais pourquoi l'orientation fait-elle tant débat en France? Partons d'un constat. On vit dans une société segmentée par les niveaux de revenus, de qualification, de formation et de genre. L'école forme une citoyenneté partagée par tous, mais dans le même temps, elle répartit et sélectionne la population scolaire, et ce, au moyen de séries, spécialités et options de l'enseignement secondaire et du supérieur. Cette hiérarchisation s'accompagne d'une orientation des élèves dans les voies scolaires qui les destine aux différents emplois offerts par le marché du travail. Le problème de ce mode de fonctionnement, eh bien, c'est la hiérarchie scolaire qui correspond à une hiérarchie des genres et des origines sociales des élèves. Comment le monde de la recherche s'empare-t-il de ce sujet? On vous propose aujourd'hui, dans Ça manque pas d'air, l'éclairage de deux chercheurs, Hélène Buisson-Fenet, ici en studio, et Aziz Gelab, qui est en duplex depuis Lille. Hélène Buisson-Fenet, vous êtes docteur en sociologie, spécialiste de l'éducation et de la formation. Vous êtes directrice de recherche au CNRS dans la section politique, pouvoir, institution, et vous faites partie du laboratoire Triangle à l'ENS de Lyon. Vous avez publié des travaux sur la production des élites scolaires en France, notamment dans une perspective comparative avec les États-Unis, sur la place des filles et des femmes dans l'éducation et la formation, ainsi que sur les classes préparatoires et aux grandes écoles, pardon, et à la création de l'outil APB. Aziz Gelab, vous êtes docteur en sociologie et habilité à diriger les recherches dans ce domaine. Vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale, mais vous avez été professeur des universités à Lille 3 et avez dirigé le laboratoire CIRIES, le centre d'études et de recherche individus, épreuves et sociétés. Vous avez publié des travaux sur l'enseignement et l'étude en lycée professionnel, sur le bac pro et le CAP, sur l'expérience de l'accès à l'enseignement supérieur et sur la décision d'orientation. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Tout de suite, nous accueillons Margot Dufaux, élève à l'ENS de Lyon. Bonjour Margot.
Bonjour Marie-Claire.
On vous écoute pour un petit rappel historique concernant l'orientation dans le système éducatif français.
C'est parti. Alors, pour débuter, je vous propose d'écouter une petite définition de l'orientation.
Au fur et à mesure que votre enfant grandit, il va penser à ce qu'il fera plus tard. Vous entendrez parler d'orientation. L'orientation, c'est réfléchir à son avenir, prendre des décisions, poursuivre des études, choisir un métier. Au collège, en classe de 3e, puis au lycée, en classe de 2e générale et technologique, et en classe de terminale, votre enfant devra faire des choix d'orientation pour poursuivre ses études. Pour l'aider à choisir en tenant compte de ses projets et de ses résultats scolaires, vous échangerez avec ses professeurs, et plus particulièrement avec son professeur principal.
Ce montage a été réalisé en 2016 par l'ONICEP, Office national d'information sur les enseignements et les professions, dans le cadre d'une série intitulée « L'école expliquée aux parents ».
Margot, comment en est-on arrivé là? Depuis quand parle-t-on d'orientation?
Alors, de la naissance de l'école laïque française au début du XXe siècle jusqu'à la fin des années 1960, l'orientation est d'abord professionnelle avant d'être scolaire. C'est un processus de sélection pour répartir les futurs travailleurs en fonction des besoins de la collectivité et de la croissance économique. À partir des années 1970, l'orientation commence à s'individualiser. Les nouvelles procédures d'orientation, en 1973, intègrent en ce sens les acquis des mouvements sociaux des années 60. en 1970 et créé l'ONICEP. L'objectif est de construire au travers des services publics une planification scolaire assouplie afin de mieux respecter la liberté individuelle des choix ainsi que la transparence du dialogue sur ces questions. À partir des années 1990, avec les ministres de l'Éducation Jack Lang puis François Bayrou, l'orientation se libéralise. L'idée d'une construction progressive, propre à chaque élève, a finalement fait son chemin. À cette forte individualisation, et donc pression exercée sur chacun des élèves, répond une mise en concurrence des institutions chargées d'encadrer l'orientation. Les publications de l'ONICEF, par exemple, deviennent payantes. Les salons et officines privées spécialisées sur le thème de l'orientation se multiplient. La presse et l'édition multiplient également les brochures et les publications dédiées.
Quel bilan on peut faire de cette construction de notre système d'orientation ?
Eh bien, Marie-Claire, on peut dire que l'évolution des politiques d'orientation répond à une tendance nette à la libéralisation des procédures et services offerts. Conséquence directe, on a aujourd'hui un système d'orientation français qui cristallise les inégalités, comme le souligne la sociologue de l'éducation Marie Durubella, marraine de la dernière édition de la journée du refus de l'échec scolaire organisée par l'AFEV, pour Association de la Fondation étudiante pour la ville, qui était consacrée à l'orientation.
Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres afin d'avoir une idée plus nette sur ces inégalités ?
Oui, regardons ensemble quelques chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Il montre que le poids de l'origine sociale est incontournable dans les parcours scolaires. Par exemple, 85% des enfants d'enseignants et de cadres obtiennent le baccalauréat, contre seulement 50% des enfants d'ouvriers. Autre exemple, une surreprésentation des enfants de milieux favorisés dans les filières générales et des enfants de milieux populaires dans les filières professionnelles. Le poids du genre reste également déterminant. Les filles réussissent mieux que les garçons, mais sont progressivement exclues des filières les plus prometteuses, à savoir les classes préparatoires aux grandes écoles ou encore le troisième cycle des universités. Par exemple, sur les élèves entrés en 6e en 1995, 72% des filles ont leur baccalauréat contre 60% des garçons. En revanche, sur la population des classes préparatoires aux grandes écoles, les filles ne représentent plus que 50% des effectifs, 46% des doctorants et 26% des écoles d'ingénieurs. À partir de ces quelques chiffres, je vous laisse engager la discussion du point de vue de la recherche. Je te rends l'antenne, Marie-Claire.
Et merci, Margot. Voilà effectivement de quoi alimenter notre propre discussion ici en studio. Alors, est-ce que vous auriez des commentaires à faire sur ce qu'a dit Margot dans la première partie, sur les propos de Marie Durubella, sur le fait que le système éducatif cristallise les inégalités en termes d'orientation?
Alors, il y a deux choses. Il y a l'histoire des inégalités, il y a l'histoire de la cristallisation à travers l'orientation. C'est un propos que Marie Durubella, souligne depuis les années 80, depuis ses premiers travaux sur l'orientation. Et il est vrai qu'on a beaucoup de mal à travailler sur les effets de filtres sociaux que produisent en fait les mécanismes d'orientation, en tout cas dans le modèle français. Donc oui, effectivement, il y a simplement, je pense que les travaux sociologiques ont aussi beaucoup avancé en contextualisation et en raffinement d'analyse sur notamment la reproduction sociale des appartenances à des groupes sociaux qu'on appelle depuis les années 60 des classes sociales à travers les dispositifs d'orientation, et qu'il y a une double innovation des travaux sociologiques depuis les années 90, une première innovation qui a complexifier le rôle de la demande et notamment de la famille, de l'élève à travers l'analyse des arbitrages et des choix de l'école dans un système où la dynamique des choix scolaires s'est beaucoup sophistiquée. Et un deuxième apport assez récent des travaux, c'est qu'on évalue de plus en plus le rôle de l'institution scolaire elle-même dans la constitution de ce qu'elle n'appelle pas des choix, mais de ce qui s'appelle des vœux en termes de régulation de l'orientation scolaire, et en l'occurrence des vœux de plus en plus différenciés. Donc je pense que, oui, le propos de Marie Durubella a évidemment une forte actualité, mais en même temps, à travers la production sociologique, on pourra le raffiner beaucoup depuis notamment les années 90.
Et vous, Monsieur Gelab, vous avez des choses à rajouter ?
Oui, effectivement. Je crois que la collègue, c'est que on a affiné un peu les indicateurs, mais on se retrouve devant finalement une pluralité de facteurs qui interviennent dans l'orientation. C'est-à-dire que traditionnellement, l'orientation était considérée comme quelque chose de relativement descendant, institutionnel, centralisé, et avec les travaux déjà de Marie Duruvella et puis les réduits dès le milieu des années 80, on voyait clairement qu'il y avait une autre dimension qui intervenait, qui est celle des contextes scolaires, les établissements, qui jouent un rôle important dans le tri, dans les parcours. Hein. Il y a un effet établissement incontestable dans l'expression des jeux et des choix. Et s'ajoute à cette évolution le fait que les familles sont bien sûr inégalement disposées ou prédisposées à faire des choix en guillemets stratégiques ou éclairés. Et donc cette combinaison de différentes variables explique ces parcours différenciés. Et souvent d'ailleurs, quand on parle de choix d'orientation, ce qui intervient, c'est que traditionnellement en sociologie, on parle beaucoup du déterminisme. Mais parfois, ce qui est appelé par les acteurs ou considéré par les acteurs comme étant un choix, ça couvre aussi des renoncements. C'est-à-dire que vous avez des élèves qui disent on a choisi d'aller vers telle ou telle filière parce qu'on ne pouvait pas faire tel ou tel autre choix. Et donc la notion même de choix est devenue, je pense que c'est un sujet d'ailleurs qui devrait être travaillé un peu plus scientifiquement par la recherche, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle choix d'orientation, étant entendu qu'on a souvent une conception assez libérale, donc quoi, l'individu il est suffisamment informé et donc il va choisir en connaissance de cause. Donc voilà, ce sont des éléments qui interviennent, qui viennent aussi montrer que ces inégalités se produisent ou se construisent sous l'effet conjugué d'une pluralité de variables. Après, il reste à démontrer quel est le poids qui revient à telle ou telle variable.
Hein. On n'est pas allé jusque-là, justement. On n'arrive pas à dire, parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'effet établissement, il y a l'effet famille, il y a l'effet autocensure aussi, parce que les élèves ne s'autorisent pas à envisager telle ou telle orientation. Qu'est-ce qui se joue là aussi? Est-ce qu'on arrive à affiner des choses, Hélène?
Oui, on a deux travaux récents, en fait, deux travaux doctoraux qui ont donné lieu d'ailleurs et à ouvrages et à articles, l'un comme l'autre, qui sont des travaux de suivi de cohorte DEP, Direction d'évaluation du pilotage et de la prospective du ministère, ceux de Joanie Caillouette-Ramblière et ceux de Séverine Chauvel qui travaillent de manière, on dira, centrale sur les élèves de catégorie populaire et qui montrent effectivement qu'à travers cet agrégat qu'on appelle catégorie populaire, on a des positionnements à l'égard de la notion de choix elle-même ambivalente, effectivement, qui peuvent être différenciés et au regard des ressources que ces élèves ou leurs familles peuvent malgré tout mobiliser. Et notamment la question des ressources d'information, la question des formes d'accompagnement, voire de tutorat à l'orientation, leur permet de spécifier des catégories d'élèves d'origine populaire pour qui, en fait, la question des arbitrages se pose de façon moins déterministe que pour d'autres. Et donc oui, on a aujourd'hui des travaux récents sur la distribution des variables, les analyses par Le Gratio ou par variables, enfin des analyses multivariées permettent vraiment d'approcher de façon assez sophistiquée en fait les parcours, les bifurcations, notamment au niveau des années importantes comme la fin de la troisième, la fin de la seconde, ce qu'on appelle les années paliers.
Alors, justement, tout à l'heure, on a parlé de la mise au centre de l'élève dans le processus d'orientation. Hein, on passe par l'élève. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette capacité à s'orienter dans une logique de parcours d'orientation, puisqu'on est dans cette logique de parcours. Aziz Gelab, vous pourriez ça fait partie de vos travaux, de vos recherches?
Oui, alors la question de l'individu au centre, qui d'ailleurs, comme vous le savez, a suscité beaucoup de débats depuis la loi de 89, l'élève au centre du système éducatif, hein, qui considèrent finalement, parce qu'il y a c'est dans des débats et parfois des querelles qui finalement remettent en cause cette idéologie, en tout cas considérée comme étant une idéologie libérale, qui ferait de l'individu à la fois l'auteur de sa vie et finalement le responsable de son devenir. Donc cette loi, en fait, elle s'inscrit aussi dans une évolution socio-historique qui a amené l'institution éducative à une, qui a toujours été embarrassée avec la question de l'orientation, il faut le dire. C'est-à-dire que traditionnellement, l'éducation nationale gère d'abord des flux, hein, de plus ou moins massifs de public.
Oui.
Et il a fallu gérer un peu cette tension. Comment est-ce qu'on concilie une gestion des flux avec la prise en compte, par exemple, du projet de chaque élève? Et donc, cette tension, elle explique aussi le fait que l'orientation est devenue d'autant plus un enjeu que pour les familles, pour les élèves et aussi d'une certaine manière pour l'institution, elle est aussi un facteur important qui engendre soit des inégalités, soit il peut finalement les réduire. Quoi. Et donc, un des problèmes que soulève cette question du choix d'orientation par l'élève, c'est, comme disait effectivement Hélène à l'instant, l'idée de savoir quelles sont les sources d'information dont disposent les individus. Mais il n'y a pas que seulement l'information, parce que l'information, on peut l'objectiver en disant il y a effectivement des revues, il y a des informations un peu éparses, mais l'information, c'est aussi quel positionnement l'individu va avoir avec cette information. Hein. Et là, on arrive à un autre problème qui est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est celui de l'autocensure. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui, finalement, anticipent un avenir en disant, finalement, ça, c'est fait pour moi ou ça n'est pas fait pour moi, parce que parfois ils intériorisent finalement une incapacité ou une difficulté à se voir, par exemple, aller dans des filières, en guillemets, plus élitistes quand on est issu du milieu populaire. Et du coup, ce qui va devenir important, c'est de savoir est-ce que l'institution, est-ce que les établissements scolaires sont capables d'amener et d'aider les élèves, d'aider les parents à aussi construire
oui, de corriger ça
En essayant de surmonter parfois cette autocensure ou de se poser aussi comme étant réellement, finalement, capable de choisir quelque chose qui lui convient. Donc la question des inégalités, elle concerne aussi la capacité qu'ont les individus à mobiliser des ressources. Il ne suffit pas de les avoir quand elles existent, il faut aussi pouvoir les mobiliser en ayant connaissance un peu des différents enjeux, ce qui est loin d'être le cas, et ce qui explique en partie aussi le maintien d'inégalités d'orientation.
C'est ce qu'on retrouve chez les filles pour l'orientation dans les filières scientifiques.
Oui, oui, notamment, même si le mot de stéréotype ou d'autosélection peut en fait cacher un certain nombre de réactions plus ou moins conscientes ou inconscientes des usagers et usagères en question à l'égard de dispositifs ou de processus proprement institutionnels pour lesquels la question de l'information se repose. Et il est vrai qu'on est dans une institution qui doit affronter le paradoxe selon lequel, dans une école massifiée, il nous faudrait passer du prêt-à-porter au sur-mesure. Je rajouterais au propos d'Aziz Gelab que s'il y a un rôle modèle adulte important dans ce passage du prêt-à-porter au sur-mesure, c'est bien l'enseignant lui-même et c'est l'enseignant en tant que prof principal qui prend ou qui devrait prendre vraiment au sérieux la question de l'orientation, à défaut d'être tout au long de la vie, au moins tout au long de l'école. Et je pense que si l'institution prend de plus en plus au sérieux le droit à l'orientation, y compris d'ailleurs sous la menace parfois du contentieux que ce droit autorise ou amène autour des commissions d'appel, il faudrait aussi qu'elles prennent au sérieux la question de la formation des enseignants à l'orientation.
J'allais vous interroger sur ce point. Vous avez parlé d'information, Monsieur Gelab, et moi, je voulais vous interroger aussi sur la question de la formation des enseignants sur cette question, parce qu'eux-mêmes sont sans doute peut-être leur vision des métiers de l'orientation est elles-mêmes délimitées par rapport à leur propre histoire, leur propre culture, leur propre domaine de vie, quoi. Leur propre établissement aussi.
Oui, vous avez raison, c'est une question importante, c'est la question de la formation des enseignants, qui, effectivement, est nécessaire, mais qui doit, à mon avis, par rapport à ce qu'on peut observer sur le terrain, elle doit aussi, finalement, s'intéresser et en tout cas porter sur le lien qui existe entre les compétences de l'enseignant qui sont plutôt des compétences disciplinaires et le fait que ces disciplines qu'on enseigne peuvent aussi ouvrir, elles ne sont pas l'exclusif, mais elles peuvent aussi ouvrir sur l'orientation des élèves. Je le dis d'autant plus que quand on interroge par exemple les lycéens, globalement, les choix d'orientation, même s'ils sont soumis à des facteurs, bien sûr, étroitement liés à l'origine sociale, capital culturel, par exemple, des parents, en général, les élèves, les lycéens choisissent aussi en fonction du rapport qu'ils ont avec la discipline enseignée.
Oui.
Et systématiquement, je pense par exemple à des recherches qui sont un peu classiques, mais je trouve qu'on devrait sans doute les renouveler aujourd'hui, systématiquement, dans ces recherches qui dataient déjà au début des années 90, soit à cette période où on avait développé ce qu'on appelait à un moment l'éducation à l'orientation, ces recherches mettaient en évidence le fait que les élèves, quand ils choisissent souvent selon deux critères, le critère prestigieux, prestige ou non prestige, par exemple des professions, ce qui veut dire qu'il y a une hiérarchie et que les choix d'orientation sont aussi des choix sociaux.
Mmh.
Et l'autre élément qui intervient, c'est le genre, c'est-à-dire que les choix professionnels, qui effectivement sont le débouché entre guillemets naturel quand on fait des études supérieures, sont des choix qui sont aussi genrés. C'est-à-dire on se positionne, est-ce que c'est un métier masculin ou féminin, quoi. Donc le choix en lui-même, quand l'individu fait un choix, qui répond en partie à la question de tout à l'heure, il fait un choix en fonction aussi, ce sont des choix sociaux et pas seulement strictement personnels. Et du coup, les enseignants, pour revenir à votre question, en fait, on l'a vu par exemple avec l'expérimentation de la décision d'orientation revenant aux parents. Vous savez que le ministère avait mis en place, il y a à peu près 500 collèges en France, qui ont expérimenté cette possibilité quand les parents de choisir. Et donc, le choix leur revient en fin de troisième.
Oui.
Et ce qui était apparu clairement, c'est que il suffit pas. D'ailleurs, il y a un texte que j'avais écrit là-dessus, que j'ai intitulé « Suffit-il de décider pour bien choisir ?» Parce qu'en fait, il suffit pas de décider, c'est de savoir comment on décide. Et selon quels critères? Et dans ces établissements-là, les professeurs principaux ont bien fait état du fait que, comme désormais ils ont un rôle plus de conseiller qu'un rôle de professeur qui dit, grosso modo, on oriente les élèves en fonction des résultats scolaires, le besoin de formation est apparu comme important. Parce que, je vous donne un exemple très concret et simple, j'ai envie de dire, c'est que, un entretien de conseil en matière d'orientation doit faire appel à des compétences autres que des compétences strictement disciplinaires.
Oui, tout à fait.
D'où l'intérêt de la formation.
Effectivement.
Oui. En particulier, la connaissance des métiers. Et on sait bien que les sociétés contemporaines pluralisent et affinent les critères de métiers que les enseignants ne sont pas forcément effectivement à même de saisir pour avoir une idée des carrières qui sont elles-mêmes sans doute sujettes au positionnement dans divers métiers pour la génération qui est celle des collégiens et lycéens d'aujourd'hui.
Oui.
Ça devient d'autant plus complexe effectivement que les métiers évoluent et le CEREC dans ses enquêtes il montre bien, il insiste beaucoup sur le fait que 70% des métiers dans 10 ans auront complètement changé. Donc ça pose aussi la question de comment on réactualise l'information, comment on l'adapte, et aussi, peut-être, ça devrait passer, mais ça c'est une possibilité, je pense que ça devrait passer aussi par le fait que les enseignants soient familiarisés avec le monde professionnel, ce qui n'est pas toujours le cas, et loin de là, y compris par exemple dans la voie professionnelle, où il arrive que vous ayez des professeurs de lycée professionnels qui n'ont eu qu'une vague expérience en entreprise ou dans les administrations.
Oui, ça c'est
ce qui repose la question de la formation des enseignants, non pas cette fois sous le seul format de la formation initiale, mais de la formation continue.
Effectivement. Là, je vois l'heure qui tourne et je ne voudrais pas passer à côté d'un sujet qui est un peu polémique, mais vous avez Hélène Buisson-Fenet, vous avez travaillé sur ces plateformes d'orientation. Donc APB maintenant, enfin APB et maintenant Parcoursup. Voilà. Donc est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire l'un et l'autre sur cette façon d'orienter, de classer les élèves en fonction, avec tout le stress qu'il y a autour de cette nouvelle façon de s'orienter.
Alors, je ne me prononcerai pas outre mesure sur Parcoursup, parce que je pense que le dispositif est encore récent.
Il est encore à maturer,
qu'il faudrait descendre dans le détail de la procédure un petit peu. En revanche, effectivement, on a travaillé dans le cadre d'une enquête ANR sur la production des élites scolaires sur APB depuis sa naissance en 2003 jusqu'à 2017. Et ça nous est apparu comme intéressant parce que ça s'inscrivait dans l'histoire des classes préparatoires et des grandes écoles, y compris historiquement, puisque APB est né, entre guillemets, de ce qu'on a pu appeler à l'école polytechnique le carnet de bal des polytechniciens, qui consistait en fait à parier le classement à l'entrée des écoles d'ingénieurs avec les écoles d'ingénieurs elles-mêmes, enfin avec l'inscription dans les écoles d'ingénieurs. Autrement dit, il fallait arriver à trouver une forme d'optimum dans les choix entre le classement au concours et les grandes écoles qui elles-mêmes faisaient leur choix entre élèves classés. Donc APB était fort intéressant en termes d'instrument de gouvernement de l'orientation et surtout de la sélection scolaire à l'époque. Et ce qui a été passionnant pour nous, c'est de voir transférer APB au niveau des lycées professionnels, puisqu'APB, enfin l'ancêtre d'APB a servi en fait à essayer de ventiler les élèves qui choisissaient le lycée professionnel de manière à éviter justement les orientations non choisies ou les affectations non choisies. Et puis ensuite c'était étendu au lycée, puis c'était étendu, enfin à la fin du lycée, puis c'était étendu au BTS, etc. Donc c'était intéressant pour nous de voir l'extension en fait de ce dispositif qui ne venait au départ pas du tout de l'univers du secondaire.
Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de développer parce que je vois que l'heure tourne. Et il y a tellement de choses à dire sur ces questions. Peut-être une petite conclusion si vous avez des choses à compléter. Hélène Buisson-Fenet.
Alors, s'il fallait reprendre effectivement les points de vigilance, je pense que la question des passerelles est absolument centrale. Il faut quand même remarquer qu'on est dans un système assez paradoxal dont le dualisme effectivement entre université et classe préparatoire aux grandes écoles aboutit à... alors, pour pousser un peu le bouchon, à apprendre à nager à des poissons, puisque ce sont quand même les lycéens scolairement brillants et socialement relativement favorisés, hein, pour qui le cadrage, l'accompagnement est le plus fort en classe préparatoire, puisque les classes préparatoires sont quand même lycée plus en termes d'organisation, et pas du tout, effectivement, la question de l'autonomie se pose pas du tout. Je pense que les élèves de classe préparatoire sont les moins autonomes du monde. L'éducation à l'orientation me semble être une thématique à muscler beaucoup, et on a parlé effectivement de la formation des enseignants et notamment des professeurs principaux à cette question. Je pense que la territorialisation, ou en tout cas l'entrée des régions dans le dossier de l'éducation, en tout cas de la formation professionnelle, y compris initiale, est sans doute à développer et elle aussi à rendre plus robuste, dans la mesure où les régions ont beaucoup de mal, enfin les collectivités territoriales ont beaucoup de mal à atteindre les établissements scolaires et les enseignants par ailleurs. Et puis je pense que en matière de points à valoriser, depuis une dizaine d'années, ce à quoi on a affaire, c'est quand même à une efflorescence d'initiatives en matière de forums de l'orientation, dans lesquels d'ailleurs les chambres de commerce et d'industrie sont très partie prenante. On a affaire à beaucoup de débats, on a des initiatives en fait multiples et variées, un équipement, si je puis dire, comme Parcours Avenir depuis 2015, tente justement de faire converger, de structurer, etc. Et je pense que dans ce cadre-là, on a un paquebot en puissance, si je puis dire, mais qui reste encore à piloter.
À piloter et à organiser, effectivement. Et vous, Monsieur Gélab ?
Oui, écoutez, moi je reviens quand même à un principe que je trouve, comme vous le savez, qui est quand même central dans notre... dans les textes concernant l'éducation, c'est que le système éducatif, il est bien indiqué, doit contribuer à l'égalité des chances. Mmh. Et cette notion d'égalité des chances ne peut plus être restée une abstraction. Donc, je pense, et je suis convaincu qu'elle se joue et doit se jouer de plus en plus, et pour rejoindre le propos précédent, à l'échelle du territoire et à l'échelle aussi des établissements scolaires. C'est-à-dire qu'on voit aussi des dynamiques en matière d'orientation qui sont construites positivement entre établissements et des partenaires, ou au-delà effectivement des journées portes ouvertes ou des forums, il y a aussi une forte implication des milieux professionnels pour présenter un peu les formations, les métiers et ouvrir des perspectives aux jeunes. Et donc, il faut qu'on fasse un pas un peu en avant pour que l'école se préoccupe aussi du devenir des jeunes et que la thématique de l'insertion professionnelle, qui n'était pas traditionnellement inscrite dans les missions de l'école, elle devient de plus en plus importante aujourd'hui quand on sait que le diplôme reste encore en France, puisqu'ailleurs, quand même assez déterminant et pèse beaucoup sur le devenir des individus. Alors bien sûr, il y a toujours la formation tout au long de la vie, mais on est encore finalement loin du compte, puisqu'on voit, par exemple, on prenait les VAE ou les bilans qu'on en fait de la validation des acquis d'expérience, on s'aperçoit souvent que la qualité de la formation initiale pèse encore et influence aussi le devenir des individus.
Oui, lourdement, oui même. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les deux. Ça manque pas d'air, c'est terminé pour aujourd'hui. Et cette émission a été préparée par Margot Dufaux, élève à l'ENS de Lyon. Sébastien Boudin nous a accompagnés donc à la réalisation. Prochain rendez-vous de Ça manque pas d'air, ce sera pour le mois de février. Et notre prochain thème sera l'inclusion scolaire. Merci à tous les deux et à très bientôt.